pour les fêtes là, donc le premier, j'ai décidé de boire, donc pour fêter la nouvelle année. Mais c'est vrai que ça fait des ravages au niveau physique. Donc moi, comme je suis très sportif, je l'ai ressenti. Jusqu'à aujourd'hui, je le ressens encore, sachant que c'était hier, quoi. Donc aujourd'hui, je le ressens encore.
Et moi, j'ai vu tout de suite le conséquence, parce que j'ai pris 1,5 kg en une soirée sans manger. Du coup, là, j'ai décidé de tout arrêter niveau alcool.
La Ligue contre le cancer 35 a lancé, à l'occasion du Dry January, une opération avec une quinzaine de bars du département. Des cocktails seront vendus dans chacun de ces bars et pour chaque cocktail, 1 € sera reversé à la Ligue contre le cancer pour ses actions. On reçoit pour en parler Chloé Minereau, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes chargée du mécénat et de l'événementiel pour l'association. Vous venez d'entendre un extrait d'un reportage de la chaîne La Réunion Première, fait le 2 janvier 2023, qui évoque le Dry January. 24% des Français vont le faire cette année. Est-ce que vous pourriez nous dire ce que c'est que ce Dry January ?
Alors le Dry January, ou défi de janvier en français, c'est un mois où on évalue sa consommation d'alcool pour un petit peu prendre acte ou conscience de ce qu'on consomme au quotidien ou hebdomadairement ou mensuellement. Donc c'est pas un mois dans lequel où la Ligue contre le cancer dit qu'il faut absolument arrêter de consommer de l'alcool, mais c'est surtout essayer de se modérer, essayer de nouvelles alternatives et puis tout simplement évaluer sa consommation.
Les fêtes, c'est un moment où le corps est mis à l'épreuve, on a pu l'entendre dans l'extrait.
Oui, tout à fait.
Quel est l'intérêt pour le corps de faire ce mois de cure ?
Alors, un mois de cure, en soi, c'est essayer de se purger de l'ensemble des méfaits de ce qu'on a pu faire dans les excès qu'on a pu avoir précédemment, mais c'est d'abord pouvoir évaluer sa consommation, tout simplement, essayer de nouvelles alternatives, et puis tout ça, enfin, puis voilà, puis voir en soi aussi qu'on est capable de manger sans sucre et boire sans alcool tout aussi simplement qu'on peut en boire, quoi.
Le principe, c'est donc de faire un mois sans alcool, mais est-ce que un mois, c'est suffisant ? Car la plupart des gens reprennent leurs habitudes à partir de février.
Alors, un mois, c'est forcément pas suffisant. L'objectif, c'est surtout de se rendre compte que parfois, on peut abuser et que c'est pas forcément très bon pour sa santé. S'en rendre compte, c'est déjà le premier pas pour pouvoir avoir une attitude plus sobre et plus modérée. L'objectif, c'est aussi de faire en sorte de pouvoir voir qu'est-ce qu'on est censé au maximum pouvoir consommer en fonction de sa taille, de son poids, de faire un petit peu le bilan de qu'est-ce que ça peut nous apporter au quotidien de ne pas boire. Notamment, il y a beaucoup d'avantages qui sont par rapport au sommeil, par rapport au poids, on l'a entendu tout à l'heure dans l'extrait. C'est voir ce qui nous arrange dans justement le fait d'avoir une attitude plus modérée par rapport à l'alcool.
31% des Français ont une consommation excessive d'alcool. 17% boivent davantage depuis la crise sanitaire. Ce sont vos chiffres de la Ligue contre le cancer. Quels sont les risques liés à une trop grande consommation d'alcool ?
Effectivement, des risques de cancer qui sont accrus. On pourrait penser que c'est exclusivement les voies digestives qui peuvent être concernées par un cancer qui serait lié à la consommation d'alcool. Mais malheureusement, c'est un des premiers facteurs de risque pour tous les cancers, notamment le cancer du sein qui est un des plus prédominants chez la femme. Donc, effectivement, l'alcool et le tabac, c'est vraiment les deux maux de la société qu'on essaye de combattre avec la Ligue contre le cancer et puis avec les autres associations comme Addiction France.
Vous mettez donc en avant un partenariat avec 15 bars.
Tout à fait.
En ciblant des bars, vous ciblez plutôt une population jeune qui fréquente donc ces établissements. Est-ce que vous avez pensé votre action en fonction de cela ? Parce que c'est une population qui connaît peut-être mal les risques liés à cette consommation-là.
Voilà, tout à fait. En fait, on voulait faire en sorte d'aller sur le terrain de pas forcément l'alcoolisme, mais de là où on consomme le plus d'alcool généralement. Et puis aussi se faire allier des bars avec les qui sont les premiers prescripteurs d'alcool, mais aussi de boissons sans alcool, bizarrement. Donc, en convainquant les bars de proposer des mocktails avec en plus un aspect, on va dire, caritatif inclus dans le package, là, on peut faire une bonne action tout en faisant du bien à soi. Donc c'est à la fois une bonne action pour sa santé et une bonne action pour une association, quoi.
Ces mocktails, vous avez travaillé à leur conception. Comment vous avez travaillé là-dessus pour avoir quelque chose de particulier à proposer en plus ou à la place plutôt des boissons alcoolisées?
Alors déjà, tout d'abord, on a travaillé avec un mixologue pour pouvoir évaluer un petit peu qu'est-ce qu'on pouvait faire avec un spiritueux sans alcool. Ensuite, on a dû trouver un partenaire qui soit à la fois une marque de spiritueux qui ne soit pas distribuée par des marques d'alcool, pour ne pas promouvoir des marques d'alcool en même temps que promouvoir notre mocktail. Ensuite, on a fait appel à une diététicienne pour qu'elle nous donne un petit peu des recommandations sur qu'est-ce qu'on pouvait proposer comme mocktail avec un indice glycémique plutôt bas, puisqu'on sait que les jus de fruits parfois peuvent être assez intenses en sucre, ou parfois il y a des sucres qui sont rajoutés, des sirops, etc. Donc là, on a travaillé en fait un mélange avec un spiritueux sans alcool qui s'appelle Djin, D-J-N. D-J-I-N, voilà, c'est mieux. Donc il y a sans alcool et sans sucre. Ensuite, on y a ajouté une base un petit peu sucrée qui est à base de miel, mais diluée dans de l'eau. Donc on a quand même cet élément un petit peu sucré, apaisant en bouche pour le miel pommes, qui est le nom du mocktail, mais qui est quand même doux. Et puis ensuite, on a rajouté du jus de pomme pour le goût, tout simplement. Et globalement, on a fait plusieurs essais avec du coup le mixologue et la diététicienne qui étaient là. On a fait différents équilibrages pour que ce soit à la fois bon, appétant, mais pas non plus rassasiant comme ça pourrait l'être s'il était vraiment très sucré. Et puis je pense que le cocktail est en rendez-vous, puisque c'est l'un des plus commandés là pour l'instant dans les bars que j'ai eu l'occasion de visiter qui participent à l'opération.
L'alcool est très souvent lié à la fête. On a même souvent du mal à penser à une fête sans alcool. Comment on fait pour séparer ces deux éléments-là et faire penser à des fêtes sans alcool, à les promouvoir ?
Mais alors malheureusement, ça demande beaucoup aussi de soi-même. Hein. C'est pour ça qu'on vient sur les terrains des bars pour essayer de montrer que d'autres options sont possibles. Mais c'est vrai qu'il faut se dire, est-ce que j'ai besoin de reprendre un verre là ? Enfin, de reprendre un verre d'alcool, est-ce que je ne pourrais pas reprendre autre chose ? Est-ce que ce qui m'intéresse dans la soirée dans laquelle je suis, là maintenant tout de suite, est-ce que ce n'est pas plutôt d'être avec les gens que d'être dans l'ivresse ? Est-ce que la population qui est autour de moi ne me procure pas déjà un petit peu d'ivresse ? Donc, on peut répondre à ces questions en même temps que faire le jeu de ces résolutions.
Il y a une sorte de déni ou de tabou en France vis-à-vis de l'alcoolisme ? Est-ce que c'est lié à un problème de sensibilisation ou de lobby trop puissant, par exemple le lobby viticole qui est très fort, d'où ça vient ?
Je pense que c'est un petit peu des deux. Après, personnellement, je voudrais pas me positionner sur un fait plutôt que l'autre. Y a forcément une part de société qui joue beaucoup. On est un peu à l'époque du binge drinking. Je sais même pas comment ça se dit en français, mais c'est un petit peu consommer de l'alcool avec excès, toujours dans l'objectif de l'ivresse, plus que finalement dans l'émerveillement de ses papilles avec des cuvées mondaines et folles. Hein. Donc, c'est vrai qu'il y a une grosse part de société qui joue là-dessus. Et plus on arrivera à dénormaliser le fait de consommer de l'alcool dans les lieux de vie et les lieux de fête, plus on participera au fait que sans l'alcool, la fête devienne plus folle. J'ai failli me tromper d'ailleurs.
L'alcool est, on le sait, le deuxième facteur de risque de cancer évitable.
Tout à fait.
Il entraîne plus de 41 000 décès par an en France. Mm-hmm. Comment se fait-il que cela soit encore autant ignoré ? On parle souvent de la cigarette, mais l'alcool est rarement mis sur la table.
C'est comme vous disiez tout à l'heure, c'est un accoutumance sociale, c'est quelque chose qu'on a l'habitude d'avoir toujours sur les tables pendant les fêtes. Mais je trouve ça plutôt encourageant, au contraire, parce qu'il y a quand même beaucoup de jeunes qui se rendent compte que l'alcool est présent partout et qui arrivent à faire cette différence entre le besoin d'ivresse et juste l'envie de partager un verre entre amis. Et ça, je trouve que c'est très très encourageant, et je pense qu'on a beaucoup à apprendre de tous les étudiants qui se lance même sans faire exprès dans le défi de janvier toute l'année.
On a parlé un peu du territoire francophone en général, mais ici vous êtes en Ille-et-Vilaine, en Bretagne.
Tout à fait.
En Bretagne, on sait que l'alcoolisme est quelque chose de plus pressant que dans d'autres régions de France. On le voit notamment par la consommation hebdomadaire nationale des 18-30 ans, qui est de 32,5, alors qu'en Bretagne, on est sur du 43,5%. Comment est-ce qu'on fait pour parler de ce genre de sujet-là en Bretagne ? Est-ce que c'est plus compliqué ? Est-ce que c'est un sujet plus tabou ? Peut-être même plus simple, parce que les gens le ressentent peut-être plus aussi.
Très sincèrement, je n'ai pas particulièrement d'avis très tranché sur la question. Je pense qu'on en parle pas forcément différemment, et surtout pas forcément aux mêmes endroits de la même manière, parce qu'en Bretagne, il y a quand même des territoires qui sont très différents les uns des autres. Là, par exemple, on est sur la commune de Rennes, où c'est une commune très jeune, très bougeante, avec beaucoup de bars, etc. On va dire que les problèmes de l'alcoolisme, c'est surtout l'alcoolisme de tous les jours, plus que de l'alcoolisme de fête aussi. Donc, En fait, c'est des sujets de prévention qui sont travaillés au cas par cas en fonction des catégories sociales et d'addiction dont on parle. Donc, on a un service prévention à la Ligue qui œuvre principalement auprès des enfants pour développer des comportements psychosociaux, en fait, qui arrivent à affirmer leur personnalité face justement à ces faits de société pour développer en fait la modération au plus jeune âge. Après, il y a d'autres associations qui sont plus sur un credo, justement, de support de l'addictologie pour essayer d'éviter ces comportements addictifs. Et donc, en fait, chaque cible a son propre problème et sa propre solution. Il n'y a pas une solution pour tous ces problèmes-là, malheureusement.
C'est plus simple, peut-être, de cibler des populations jeunes, étudiantes, peut-être plus conscientes de ce problème-là que d'autres populations ?
Bah, c'est pas forcément plus simple, mais c'est pas du tout les mêmes réponses. Là, c'est sûr que sur une population plus jeune, on va être plus sur de l'impact médiatique, du mouvement de normalisation, un peu un mouvement de foule, un mouvement de tendance. Alors que bon, sur des personnes qui sont sous le prisme de l'addiction, là, on va être sur du travail de fond avec des professionnels de santé, tout simplement. Donc c'est pas les mêmes ressorts.
L'un des rôles de la Ligue contre le cancer est d'aider à la recherche contre cette maladie. Mmh. Où en est la recherche en ce début de 2023 face aux différents cancers ?
Alors exactement, je ne saurais pas vous dire, parce que personnellement je ne suis pas dans la recherche pure et dure. Après, c'est vrai qu'on a des résultats qui sont très très encourageants. Nous, au niveau de l'Ille-et-Vilaine, on va financer des projets de recherche qui sont du coup au niveau de l'Ille-et-Vilaine, mais aussi de la Bretagne. Donc là, il y a beaucoup de sujets de recherche qui émanent. Là, on rencontrait précédemment quelqu'un qui était sur le traitement des cancers de la peau via la technologie de la RNM qui a été pas mal popularisée grâce, si je puis dire, au Covid. Il y a beaucoup de nouvelles découvertes en sciences fondamentales et en sciences de la prévention sur lesquelles on se positionne au comité et ça avance dans le bon sens, même si bon, forcément, on me demande toujours plus de moyens pour pouvoir aider d'autant plus les chercheurs.
Vous ne faites pas uniquement que des financements pour la recherche, mm-hmm. Vous faites des actions de sensibilisation comme celles dont on a parlé
tout
aujourd'hui.
À fait.
Est-ce que vous pourriez me parler un peu de vos autres activités ?
Alors, les miennes ou celles du comité, du coup ?
Celles du comité, oui.
Ok, alors, on a quatre volets, on va dire. Il y a, du coup, le volet de financement et de soutien à la recherche, donc valorisation aussi médiatiquement des projets de recherche et soutien financier à la recherche. On va avoir des projets de prévention, donc principalement prévention en école ou soutien d'associations ou d'institutions qui œuvrent pour l'addicto, par exemple. On va avoir aussi un volet qui est l'accompagnement pour les malades et pour leurs proches, ce qui est important de signifier, puisqu'on accompagne à la fois les personnes qui sont atteintes du cancer, mais aussi les proches aidants. Donc ça, c'est quelque chose qui est important à dire, parce que certainement, tout le monde peut être concerné en étant proche. Et on va avoir le volet mobilisation de la société, donc, dont fait partie le défi de janvier, mais aussi Octobre Rose, dont vous avez certainement entendu parler, ou Mars Bleu, qui est sur la sensibilisation au dépistage du cancer colorectal, par exemple.
J'avais une dernière petite question pour vous. Qu'est-ce qu'on peut souhaiter pour la Ligue contre le cancer en 2023 ?
C'est une très belle attention déjà. on peut souhaiter, je pense, franchement, je n'y ai pas pensé, mais je pense de réussir à se développer et surtout pas avoir encore un Covid qui impacte beaucoup les opérations de sensibilisation et de prévention au quotidien, quoi. Donc on croise les doigts.
Chloé Minereau, merci beaucoup.
Merci à vous.